Aujourd'hui et demain, deux émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrées à trois historiennes qui, sans être toutes des historiennes du contemporain, sont toutes nos contemporaines. Demain, le documentaire signé Séverine Yatar et Séverine Cassard nous plongera dans l'univers historique et archivistique d'Arlette Farge, historienne du XVIIIe siècle. Nous partirons en effet avec elle dans les liasses d'archives qui lui ont permis de restituer la vie sensible des Parisiennes et des Parisiens d'avant la Révolution française. Et ce matin, nous nous intéresserons à l'œuvre de deux historiennes qui se sont maintes fois croisées et qui ont d'ailleurs travaillé ensemble. Madeleine Reberioux, historienne du mouvement ouvrier, historienne de Jaurès, femme engagée, décédée en 2005, dont les écrits viennent d'être rassemblés aux éditions Belin. Gilles Candard nous en parlera en deuxième partie de cette émission. Mais auparavant, saluons le travail de Michel Perrault, que nous saluerons d'ailleurs pour l'occasion, à laquelle est consacré un numéro de la revue Critique. L'historienne Christine Barre et l'historien André Burguer nous en parleront en première partie de cette émission, c'est-à-dire dans un instant.
Stato padroni, fatevi conti, perché le donne vogliono i soldi. Per anni, per secoli abbiamo lavorato, per anni, per secoli ci avete sfruttato. Il nostro lavoro da tutti negato, come lavoro deve essere pagato. Soldi alle donne per questo lavoro, vogliamo le ferie da mutua salario.
Et voilà une chanson qui permet d'ouvrir en évoquant les deux figures de cette émission d'aujourd'hui. Bonjour Séverine Yatar.
Bonjour.
Les deux figures sont donc Madeleine Reberioux, historienne du mouvement ouvrier en particulier, et Gilles Candard, vous nous en parlerez en deuxième partie de cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Mais également une grande historienne de la grève et de bien d'autres sujets, Michel Perrault, à qui est consacré le numéro de Critique qui vient tout juste de sortir. Donc le numéro se titrait Michel Perrault, l'histoire ouverte. Et pour en parler, eh bien, un historien, André Burguer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez écrit une contribution dans ce numéro de Critique, ainsi qu'une historienne. Bonjour, Christine Barre.
Salut.
Et donc, et fraternité, évidemment. Donc, pour
Michel
parler.
Michel Perrault aime bien dire salut.
Voilà. Donc, pour parler de cette œuvre multiple et pluriforme, pourrait-on dire, parce que si elle a commencé, André Burguer, par l'histoire du mouvement ouvrier, avec une grande thèse qu'elle a entamée sous la direction de Ernest Labrousse, donc en Sorbonne, comme d'ailleurs bien d'autres historiennes et historiens de sa génération, elle a continué sur bien d'autres chemin, et c'est cela qui vous intéresse en tant qu'historien, André Burguer.
Oui, enfin, c'est tous ces chemins. Justement, j'avais oublié, et des textes de ce volume me le rappellent, qu'elle avait voulu, quand elle a été voir Labrousse, elle voulait travailler déjà sur les femmes. Mmh. Et c'est Labrousse qui lui a dit non, c'est pas encore un sujet peut-être suffisant, et il l'a orienté vers la grève. Parce que ceci justifiait une interprétation de ma part qui était fausse, que le féminisme, et c'est ce qui a fait son caractère tardif et sa qualité en France, est né plutôt en 68.
Ouais.
Et chez des historiennes qui étaient déjà formées à l'histoire sociale. Mmh. C'est le cas, donc très largement, on peut dire aussi bien Michel Perrault, Christiane Clapiche et d'autres.
Mais pas n'importe quelle histoire sociale, et vous le précisez d'ailleurs,
oui,
parce
oui,
que c'est
oui.
plutôt l'histoire sociale à la Edward Thompson, une histoire anthropologique, justement, qui va voir à l'intérieur ces vies ouvrières.
C'est vrai. Je ne sais pas si elle a été particulièrement marquée par Edward Thompson, son livre était paru.
Elle le dit, oui.
Effectivement, au départ, ça devait être une thèse labroussienne comme les autres, et en fait, c'est un travail qui est très différent, beaucoup plus anthropologique, existentiel, etc. Tout en restant, c'est ce qui me frappe d'ailleurs, aussi bien dans sa thèse que dans ses travaux les plus récents, Les chambres, dont qui est un livre très à part, qui m'a énormément plu. Mais déjà, dans son histoire de la vie privée, elle reste, dans le meilleur sens du terme, très sociologue. je dirais, par rapport à Corbin, qui lui est plutôt psychologue. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne cesse pas d'analyser les individus et les femmes en particulier dans leur statut social
et dans leurs rapports, dans les rapports sociaux qu'elles entretiennent avec les autres personnes d'une même société.
Et ça, c'est dû quoi? C'est dû à, parce que quand on lit son égo-histoire,
ben c'est dû à sa formation labroussienne.
Sa formation, mais aussi peut-être à sa propre histoire. Je sais pas, peut-être Christine Barre, par rapport à cette question justement de classe sociale, parce que Michèle Perrault, elle est issue d'un milieu très bourgeois, parisien. Oui. Et elle dit, enfin en tous les cas dans son égo-histoire, qu'en 1936, elle est attirée par des sons, des chants, des danses. Et ce sont ceux de, d'une grève ouvrière, en fait, de femmes en grève qui dansent et qui chantent en 1936. Alors bon.
Oui, Michèle Perrault, en tout cas, pour le début de sa vie, c'est aussi toute l'histoire du catholicisme engagé, progressiste, anticolonialiste. Il y a même un petit passage par le Parti communiste, brièvement. Hein. Et puis ensuite, Michèle Perrault, c'est aussi la deuxième gauche, la CFDT. Donc il y a un engagement politique, une conscience politique très forte chez elle.
Oui, André Burguin.
Si je peux ajouter un détail. Effectivement, elle est d'un milieu très bourgeois, mais elle est dans un quartier qui n'était pas du tout...
Les Halles.
À l'époque.
Parce que j'ai habité le même quartier.
Oui, c'est Les Halles.
Oui, même la rue Greneta, le quartier, pour tout dire, des prostituées. Mmh. Hein, c'était près du Sébasto, c'était ça, son quartier. Et elle a connu tout ça. Donc elle a eu très tôt une vision plutôt mélangée de...
Et puis la mauvaise conscience, enfin, elle en parle beaucoup, la douleur d'être du côté, dans le camp des injustes. Et... ça détermine vraiment toute sa vie, elle le dit souvent, elle l'écrit.
Alors cette thèse labroussienne, peut-être il faut préciser qui était cet Ernest Labrousse, qui pratiquait donc un travail sur l'économie en particulier très fort et qui avait lancé tout un tas de jeunes étudiants et étudiantes en histoire après la Seconde Guerre mondiale dans l'étude des phénomènes économiques et sociaux depuis la Révolution française jusqu'à à la fin du 19e siècle. Donc elle va en sortir, dites-vous, André Burguer, Michèle Perrault, elle va en sortir comment et pourquoi? Parce que vous dites qu'elle avait l'intention déjà de travailler sur les femmes avant même de commencer sa thèse avec Ernest Labrousse, et elle va prendre des chemins qui vont la conduire sur les écrits de l'intime, qui vont la conduire sur l'histoire naissante des femmes, sur l'histoire de la vie privée, et vous avez travaillé dans ces années-là aussi sur ces mêmes questions, André Burguer.
Oui, on peut le dire. Cela dit, il ne faut pas effacer complètement le rôle de Labrousse, le rôle, disons,
alors,
des Labroussiens. Il ne
s'agit pas du tout.
Elle a eu déjà au départ, elle avait ce trait original qu'elle n'a pas voulu traiter d'un département ou d'une province.
Oui, parce que
tous les élèves de
Labrousse. Alain Corbin était envoyé sur le Limousin.
Voilà, tel autre.
Régine Robin était envoyée dans une autre région de France, etc.
Et donc, elle a fait ce choix, elle a un peu discuté avec lui, puisqu'elle avait voulu déjà travailler sur les femmes, et en fait, il avait travaillé sur les grèves. Mais donc, elle avait cette particularité. Mais elle appartient, par sa génération, par son état d'esprit, à cette génération des Labroussiens, qui d'ailleurs tous ont trahi le maître, si j'ose dire. Hein, parce que le roi Ladurie a découvert aussi l'anthropologie historique.
Oui.
Donc même la thèse de Bois, Paul Bois, n'a rien à voir avec un travail. Il a découvert au contraire ce qu'il appelle la transmission idéologique. Agulon, chacun finalement...
A détourné le message du maître.
A détourné le message.
Bah, c'est
non
le principe
pas...
même de l'université.
Voilà, c'est la réussite. Et d'ailleurs, le maître leur en a jamais voulu. Et c'était parce que, non pas parce qu'ils avaient chacun une région différente, mais parce qu'ils avaient chacun des préoccupations différentes. Et ça donnait, moi je crois que cette génération, c'est une des grandes générations d'historiens que connu l'histoire de France.
Ah bah ça, c'est
comparable
sûr.
À la génération des années 1830, Guizot, Augustin Thierry, ou celle des 1860. En tout cas, il n'y avait pas d'équivalent dans l'entre-deux-guerres.
Oui,
c'est sûr.
C'est comme
même
ça,
s'il y avait eu Lucien Febvre et Marc Bloch, mais qui était justement solitaire, isolé. Et voilà. Et
c'est pour ça d'ailleurs que dans la conclusion de sa thèse, Michèle Perrault, elle dit autant que les faits majoritaires, les comportements marginaux, autant que les quantités brutes, le sens des variations intéresse l'historien attentif au changement. Et elle va s'intéresser ensuite, après justement avoir travaillé sur ces questions de la grève, à tout un tas de comportements dits marginaux. Casino, à la prison. Elle va s'intéresser avec Michel Foucault et tous ceux qui accompagnaient le mouvement foucaldien à ces questions-là, c'est-à-dire à ne pas traiter justement que le fait majoritaire, Christine Barr.
Oui, c'est vrai, mais n'oublions pas dans les années 60 son compagnonnage avec Jean Métron.
Bien sûr.
Elle organise un colloque en 1960 qui s'appelle « Le militant ouvrier ». Elle participe à l'aventure du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier.
Et c'est là où elle croise d'ailleurs Madeleine Robérieux.
Voilà, la naissance du mouvement social.
De la revue.
De la revue, hein, le mouvement social.
Et ils font d'ailleurs ce fameux numéro sur mai 68. Elle raconte toujours qu'il est très mal, pas du tout compris évidemment par les étudiants, mais qui en fait fait date aussi.
Dans ce numéro de critique, elle parle justement de Jean Métron très très bien.
Oui. Alors comment se succède ou au contraire s'entrecroise justement après son attirance pour à la fois alors cette histoire des femmes dont elle devient la grande pionnière et puis elle va former des générations, on va y revenir avec vous Christine Barr d'historienne spécialiste de l'histoire du genre en l'occurrence, et puis il y a aussi l'histoire de la vie privée, cette problématique de l'intime et qui se croise aussi avec l'histoire des femmes, oui. Puisqu'après tout l'histoire des femmes on ne la connaît pas parce que c'est elles sont dans la vie privée justement, enfin voilà, et que donc les historiens ne s'intéressent pas tellement pour l'instant.
Oui, les femmes sont aussi dans les luttes et ça quand même on en a toujours parlé un peu. Mais c'est vrai que
en règle générale,
la vie privée est une étape importante de transition vers l'histoire des femmes puis l'histoire du genre. Michel Perrault dit toujours que bon, ça se passe après mai 68 quand même, cette prise de conscience finalement que on parle d'histoire sociale sans parler des femmes, et l'interpellation vient des étudiantes et des étudiantes qui sont actives dans le mouvement de libération des femmes et qui sont de plus en plus nombreuses dans les universités après 68.
Et il y a ce séminaire qui est très important à Jussieu en 73. Et là, c'est là que va se constituer ce mouvement, ce courant historiographique.
Voilà, et puis quelques années après, les premières thèses, Marie-Jo Bonnet sur l'histoire de l'homosexualité féminine, je crois que c'est la première sous la direction de Michel Perrault. Et puis bien d'autres, elle va faire soutenir une centaine de thèses. Donc sur les prisons, sur le mouvement ouvrier, et beaucoup, beaucoup sur les femmes et sur le féminisme.
Beaucoup de thèses d'ailleurs dont elle préfacera l'édition ensuite, et vous avez écrit un article dans ce numéro de critique, Christine Barr, sur les préfaces rédigées par Michel Perrault. Vous vous rappelez qu'elle a été préfacière, puisque 81 préfaces ont été écrites par Michel Perrault jusqu'à aujourd'hui. Elle en écrit peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui pour d'autres livres à paraître, j'imagine, et 57 sur l'histoire des femmes.
C'est ça, entre 1982 et 2016, donc un nombre extrêmement important de préfaces. Et la dernière, là, vient de sortir, c'est par les Georgette Sand, un nouveau groupe féministe. C'est Michel Perrault et ses préfaces, Michel Perrault préfacière. Ça ressemble un petit peu à pionnière, j'aime bien ce titre. Voilà, à quoi servent ces préfaces, comment elle donne son capital symbolique.
Comment elle construit un champ aussi, vous dites bien.
Comment elle construit une aventure collective, comment les préfaces se répondent, et les ouvrages aussi correspondent les uns avec les autres, comment elle se comporte comme préfacière. Il y a beaucoup de manières de faire.
Elle se comporte, Christine Barr?
Toujours, déjà vu le nombre, on le voit avec beaucoup de générosité.
Je pense que d'ailleurs, quand on parle de Michel Perrault, il faut toujours adjoindre ce qualificatif de généreuse, parce que c'est sûrement une des personnes les plus généreuses qu'on puisse rencontrer dans ce milieu des historiennes et des historiens tout de même.
Oui, avec beaucoup de pédagogie aussi, jamais en surplomb, en ne se mettant jamais elle en avant. Et en donnant toujours beaucoup d'importance au collectif, et au collectif qui se construit, le collectif de l'histoire des femmes en l'occurrence.
Et avec cette question de la réparation d'un oubli, les femmes ou le silence de l'histoire, c'est un de ses livres évidemment, et la réparation aussi d'une injustice qui d'ailleurs n'est peut-être pas très éloignée de son premier travail sur la grève, puisque dans ce numéro de la revue critique, je ne sais qui rappelle la phrase de Jean Métron, donc qui a été un de ses maître et compagnon de travail pendant de nombreuses années auprès du Métron et puis du mouvement social. Les humbles, ce sont le levain de l'histoire, d'une certaine façon, avec cette idée qu'il y a quelque chose-là qui n'a pas été su ou qui n'a pas été vu suffisamment, Christine Barr et André Burguer-Christine
Barr. Oui, d'ailleurs, on peut se poser la question de quelle histoire des femmes s'agit-il ? Est-ce que c'est aussi une histoire des relations entre les sexes ? Elle aime bien cette expression « rapport de sexe ». Il faut entendre rapport de classe hein, quand elle dit relation ou rapport de sexe. Le mot genre qu'elle
utilise... Qui n'apparaît pas tout de suite, vous
le dites ? Non, avec un retard, mais ça n'est pas non plus spécifique à Michel Perrault. En tout cas, elle commence à l'employer dans les années 90. Et même le mot queer de temps en temps, parce qu'il faut aussi rappeler à quel point Michel Perrault est LGBT friendly et ouverte, son ouverture aussi.
Elle est jeune, de ce côté-là. Michel Perrault.
Oui, ouverte. Le titre est très bien trouvé, l'histoire ouverte. Elle est tellement ouverte au questionnement du présent et au questionnement politique du présent que ça impacte son travail d'historienne de la manière la plus fructueuse qui soit.
André Burguer, justement, sur ces connivences, ces rapports peut-être qui sont très sensibles entre ces différents types d'histoires qu'a pu pratiquer Michel Perrault depuis le début de sa longue carrière d'historienne jusqu'à aujourd'hui.
Je pense qu'il y a une grande continuité. En fait, elle est partie de ce socle labroussien qui a été finalement un tremplin assez étonnant pour beaucoup d'historiens, mais très vite, elle a choisi. On le voit d'ailleurs dans sa façon d'aborder même les grèves, d'aborder les mouvements sociaux, et ensuite dans toute cette conversion à l'histoire, on peut dire, de l'intime. Elle a suivi, je dirais, la pente d'une sociologie qui devient peu à peu ce qu'on appelle maintenant, c'est un peu un mot fourre-tout, l'anthropologie historique. Mais elle, ça n'a pas représenté pour elle une conversion successive, mais une grande continuité de sensibilité. Elle reste malgré tout, et ça me frappe dans ce qui la distingue justement de Corbin, un autre très grand historien dans l'histoire de la vie privée, quand même très attachée à une approche sociale de la réalité historique.
Ce qui est quand même très fort aussi, parce que quand même ça fait quelques années que nous la suivons en tant que lecteur ou lectrice, c'est cette façon qu'elle a de nous surprendre tout doucement. C'est-à-dire que moi, je m'attendais pas à ce qu'André Burguer, dans Critique, écrive un article en disant « j'ai été bluffé par l'histoire des chambres ». Et c'est vrai qu'on a pu être bluffé aussi par « Mélancolie ouvrière », d'ailleurs, dont une adaptation cinématographique sortira bientôt, sur cette militante de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, Lucie Beau, qui... résumé en quelques dizaines de pages, peut-être 120 ou 130 pages, nous raconte un destin d'une femme prise dans un mouvement de grève et leader d'un mouvement de grève et quasiment inconnue jusqu'à temps que elle-même, Michel Perrault, la fasse ressortir des archives, André Burguer.
Bon, Lucie Beau, c'est une belle trouvaille. Très belle trouvaille. Mais je dirais que sa façon de l'aborder reste malgré tout assez classique. Elle voit, comme elle a l'habitude de voir, les phénomènes sociaux à travers les itinéraires individuels, personnels, etc.
Histoire de chambre.
Histoire de chambre, c'est tout autre chose. C'est un livre très original. D'ailleurs, elle pensait au début ne pas faire un travail d'histoire. C'est un travail d'écriture qui est déjà. Je dirais pas qu'il y a pas de plan. Il y a un plan, mais il est complètement bousculé. C'est-à-dire, on passe son temps, on passe d'une chambre à l'autre. Hein. Donc là, elle a essayé un genre qui est un peu à la limite de l'histoire, et c'est une très belle entreprise de la part d'un historien. L'historien, au fond, il est intéressant quand il fait bouger les cloisons de la réalité historique, surtout du savoir historique. Et c'est le phénomène chambre.
Oui, et c'est d'ailleurs, Christine Barr, quelque chose de très intéressant dans ce numéro de Critique, qui, rappelons-le, est une revue qui traite, entre autres, de bien d'autres choses, mais aussi de littérature, que de réinsister, par une historienne comme Judith Lioncan, sur le travail littéraire de Michel Perrault. C'est une historienne dont on dit généralement... Elle écrit bien, ce qui est une qualité supplémentaire, pourrait-on dire, souvent considérée comme une qualité supplémentaire pour une historienne comme elle. Et elle se demande d'ailleurs dans ce numéro, Judith Lioncan, comment la littérature est entrée dans la documentation légitime de Michel Perrault. C'est-à-dire comment elle a fait passer un goût pour la littérature, elle a finalement fait quelque chose de cela en historienne.
Oui, légitimer les sources littéraires, mais aussi légitimer une écriture libre, inventive, audacieuse. C'est un sens politique aussi, je pense, pour elle, hein, de faire un pas de côté par rapport au jargon de la théorie et puis au jargon politique qui sévissait dans ses années de formation.
Mais alors ce jargon justement théorique, ce mandarinat aussi, parce que chez Michel Perrault, il y a aussi cette question de l'enseignement, vous en parlez Christine Barre, il y a cette question justement peut-être de rompre avec le système universitaire, et elle le fait finalement en créant aussi cette chaire d'histoire des femmes à l'époque, c'est quand même une sacrée transgression d'une certaine manière, et puis il va falloir convaincre ensuite les collègues de travailler sur ces problématiques-là, et c'est pas gagné.
Non, mais juste, elle a porté ce combat avec toutes les qualités qui sont les siennes. Donc sans agressivité, avec beaucoup de conviction, en associant les hommes aussi, parce que elle y tient parmi les bénéficiaires de ses préfaces. Il y a quand même, en histoire des femmes, quand même 19 hommes, 20% d'hommes parmi les auteurs de l'histoire des femmes en Occident. Donc voilà, son ouverture, c'est aussi...
C'est avec Georges Duby, de toute façon, qui co-dirigeait la grande histoire des femmes.
Oui. Et surtout, vous insistez bien là-dessus, Christine Barre, ça n'est pas une chef d'armée, dites-vous, chef avec deux FE, distribuant les galons de ses lieutenantes.
C'est-à-dire qu'elle crée générosité... une agora égalitaire. Voilà, c'est ça qui l'intéresse, cet espace de discussion. Elle ne se comporte jamais de manière mandarinale. Elle est très consciente. Je pense qu'on pourrait même dire qu'elle est peut-être une pionnière, mais sans l'avoir tellement théorisée, mais de l'intersectionnalité. C'est quelque chose qui est toujours très présent. L'imbrication des rapports de domination. Parce que quand on dit histoire des femmes, on a l'impression qu'on isole comme ça les femmes ou qu'on étudie une seule variable dans la société. Or, elle s'intéresse aux rapports sexe et classe énormément. Elle préface des ouvrages sur l'Algérie, la guerre d'Algérie. Elle s'intéresse aussi à l'homosexualité. C'est tout le temps dans son œuvre, on trouve cette problématique-là des plus dominés parmi les dominés, des plus oubliés aussi.
André Burger, sur l'œuvre de Michel Perrault, qui peut-être nous écoute et on la salue, et surtout on ne voudrait pas faire de ce moment un moment d'hommage comme quelqu'un qui ne travaille pas encore, qui ne travaille plus. Elle est toujours présente, on l'a vu récemment pour les 50 ans du Métron à la Sorbonne, et d'ailleurs il y a le texte qu'elle a relu et retravaillé dans ce numéro de critique qui était un hommage à Jean Métron, le fondateur, cofondateur du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. C'est ce qui est plus extraordinaire, c'est quand on rencontre Michel Perrault, c'est donc de discuter avec elle d'aujourd'hui. C'est de la voir à Blois pour les rendez-vous de l'histoire, etc., etc. André Burger.
J'étais à ces rencontres en l'honneur de Jean Métron.
Vous y étiez aussi.
Et j'étais très impressionné parce que elle a parlé pratiquement sans notes. Et ce qu'elle a dit, c'est exactement ce qu'elle a écrit ensuite. Donc, elle a pu ensuite. Tandis que moi, j'arrivais avec des notes et mon texte, j'ai dû l'écrire après. Il était très différent de ce que j'ai dit. Enfin bon. Donc, elle a de ce point de vue-là un savoir-faire qu'elle a appris, je crois, parce que ça vient d'être dit. Elle a été une grande enseignante.
Eh oui.
C'est une part très importante. On le sait en France, mais allez aux États-Unis, vous verrez, vous rencontrez partout des anciennes élèves de Michel Perrault, c'est un des professeurs qui a eu le rayonnement le plus large et qui accorde de l'importance aussi, et qui a accordé de l'importance à son enseignement.
Qu'est-ce qui explique ce sourire que vous avez sur vous ?
Parce que franchement, un souvenir me revient de Jussieu quand j'étais étudiante en débat et en thèse sous la direction de Michel Perrault, et je me souviens que parfois j'étais un petit peu énervée de voir qu'elles sont consacrées exactement le même temps à tout le monde, sans considération pour le statut, donc qu'on soit en maîtrise, en DEA, en thèse, ou qu'on soit une étudiante japonaise ou des États-Unis juste venue pour le séminaire et qui avait une semaine à passer à Paris, le temps consacré était identique.
Et vous étiez un peu jalouse, c'est ça?
Oui, je crois que je me disais quand même, elle pourrait hiérarchiser un petit peu. Et en même temps, j'admirais ce... en même temps, bien sûr, j'appréciais ce sens de l'équité.
Mais vous, Christine Barre, en tous les cas, quand vous est venue, par exemple, l'idée de faire une thèse sur ce sujet-là, il y avait Michel Perrault. Comment s'est faite la rencontre?
Je suis venue à Paris, j'ai fait le début de mes études d'histoire à Lille, où on n'entendait jamais parler des femmes. Et j'étais féministe, je connaissais déjà les livres de Michel Perrault, et c'était une évidence d'aller vers Michel Perrault à Paris 7 pour faire une thèse sur l'histoire des femmes. Moi, je voulais travailler sur les femmes et le syndicalisme. J'avais commencé en maîtrise, et c'était justement ce rapport sexe et classe qui m'intéressait le plus. Et elle m'a dit mais il faudrait avancer dans l'histoire du féminisme. Laurence Kleschmann et Florence Rochefort viennent de soutenir leur thèse, et voilà, ça reste à continuer. Et donc c'est comme ça que j'ai quitté un petit peu les problématiques de
syndicalisme.
Et cas, elle m'a donné confiance, voilà, en me confiant un sujet extrêmement vaste et ambitieux.
Vous disiez en ouverture de cette discussion, André Burguer, que l'école historique française avait bénéficié de toute une génération dont vous faites partie.
Non, moi je suis d'après.
Oui, un tout petit peu après. Là, mais enfin,
je suis plus très jeune, ouais. Il y a quelques années entre les mois, ça se voit pas d'ailleurs.
mais tout de même, cette école, elle a été nourrie par tout un tas de croisements, pourrait-on dire, qui ont bénéficié à tous ceux qui portaient cette école, c'est-à-dire des émissions d'histoire, les lundis de l'histoire ici à France Culture en priorité, des présences dans les grands journaux de grande diffusion, lieux aussi comme à la télévision du temps de Bernard Pivot qui ont promu tous les travaux de toutes ces historiennes et de tous ces historiens. C'était aussi un moment d'efflorescence, pourrait-on dire, de tout ce qui intéressait l'histoire dans le domaine public, pourrait-on dire.
Et ce type d'histoire, je dirais. Oui, effectivement. Il y a eu un âge d'or de l'histoire, je ne vais pas tirer ça vers l'école des annales, mais de l'histoire sciences sociales, et dans les années 70. Et c'est le moment, justement, où leurs thèses sont sorties, où on leur donne la parole, où ils ont eu des émissions de radio, etc. Ça, c'est incontestable. Mais ils ont fabriqué le phénomène.
Oui, c'est ça. Ça n'est pas quelque chose qui leur est tombé dessus.
Non. Ils ont fabriqué. Il y avait toute une génération qui était prête à ce moment-là et qui a explosé. On va dire, voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun a pris son chemin, oui, d'une certaine manière, mais se retrouve par moment.
Oui.
Et c'est ça. Se re-rencontrent pour d'autres grandes entreprises.
Beaucoup d'entre eux sont devenus, c'est la génération de mes amis, hein. C'est pas ma génération, mais un peu plus vieux. Ils étaient tous, quand je les ai connus, ils étaient tous amis. Maintenant, il y en a qui ont disparu, et entre ceux qui sont vivants, il y a des accords, des désaccords. Ils avaient quelque chose de très important qu'on n'a pas rappelé, c'est le Parti communiste. Ouais. Presque tous étaient passés par le Parti communiste.
Passé.
Oui, bien sûr.
Et il avait quitté pour certains assez rapidement.
Oui.
Ouais. Christine Barre, un dernier mot sur ce numéro de critique, parce qu'il y a des contributions dont on peut dire qu'elles sont très nombreuses, et quand on dit les noms de ceux et celles qui, avec vous, participent à ce numéro de critique, John Scott, François Doss, Xavier Vignat, Pierre Birnbaum, Judith Lioncamp, Arlette Farge, Philippe Artière, Yves Cohen, Dominique Khalifa, Denise Ogilvy, on se dit que là, il y a quand même une belle brochette d'historiennes et d'historiens d'aujourd'hui, travaillant aujourd'hui.
Et de générations différentes. Et là, on voit la transmission aussi de Michel Perrault.
Oui, c'est une passeuse, années. L'article de Dominique Khalifa, par exemple, sur ses comptes rendus d'ouvrages d'histoire dans Libération, ça a beaucoup compté aussi. Il manque Michel Perrault à France Culture.
Ouais. Bah, il vient de temps en temps, tout de même, et nous l'invitons souvent. Et d'ailleurs,
sur les lundis d'histoire,
Michel
Perrault, c'est une voix aussi. Quand je la lis, j'entends vraiment sa voix parce que j'étais une fan des lundis d'histoire.
Avec elle, bien évidemment.
On ne m'a souvent nourri que du langage des fleurs, et des sentiments jaunis au petit courrier du cœur. On m'a donné aussi, pour me battre dans la vie, qu'une idée, qu'un passe-temps, me trouver un bon mari et lui faire des enfants. Mais un matin de grand soleil, j'ai pris la route des torrents, j'ai vu l'eau forte du réveil, loin des prisons de trop longtemps.
Manique, un titre de 1977, j'ai la chance d'être une femme. Nous parlons de deux femmes et de deux historiennes qui se sont plus que croisées, qui se sont même quelquefois accrochées. Elles le disent d'ailleurs dans un des textes, lorsque Michel Perrault parle de Madeleine Rebérioux, Gilles Candin, eh bien elle dit « on n'a pas toujours été d'accord, on a travaillé toujours ensemble ». Et d'ailleurs elle rend hommage à la fin de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Belin et dont vous êtes un des co-auteurs avec la préface avec Vincent Duclerc et Marion Fontaine. Donc, elle rend hommage au travail de Madeleine Rebérioux. Alors, autant, d'une certaine façon, tout le monde connaît l'œuvre de Michel Perrault parce qu'elle produit encore, autant Madeleine Rebérioux, disparue en 2005, peut ne rien dire ou dire peu de choses à des jeunes étudiants en histoire ou des jeunes étudiantes en histoire aujourd'hui, parce que le principe même, c'est que vous avez rassemblé des textes qui étaient très épars et vous en faites un gros livre d'écrit, justement, Gilles Candin.
Oui, vous l'avez bien dit, Madeleine Rebérioux aimait intervenir, je dirais, dans l'histoire qui se fait par des articles, par des communications de colloques, par des préfaces aussi. Elle a beaucoup de points communs avec Michel Perrault, mais effectivement, ce n'était pas l'historienne, disons, du livre fini.
Définitif.
Elle a écrit La République radicale, et d'ailleurs, avant de commencer l'émission, André Burguière rappelait à quel point on attendait parfois les contributions de Madeleine Rebérioux, qui n'aimait pas mettre le point final. Donc, ouais. Son œuvre était un peu dispersée, d'où notre idée à quelques-uns de ses étudiants. Enfin bon, Marion, Vincent et moi, nous sommes trois à vous être attelés à la tâche, mais nous l'avons fait en sympathie et en accord, évidemment, avec les nombreux étudiants de Madeleine, qui sont parfois, évidemment, c'est un peu des étudiants de Michel Perrault, parce que c'est vrai qu'elles étaient très liées, ouais. Pour réaliser cet ouvrage où on a essayé de réunir, disons, les articles les plus marquants, ces interventions les plus marquantes, aussi bien en histoire politique qu'en histoire sociale ou en histoire culturelle.
Voilà, en histoire, voilà, socialisme, bien sûr, Mes femmes au travail, Jaurès, l'affaire Dreyfus, hein, tous ces travaux quand même qui sont... Non, qui sont connus, je pense, Emmanuel Laurent.
Non, ils sont connus, mais je pense juste. Je pense juste à tous ceux qui, mettons, ont 20 ans aujourd'hui. Peut-être ils n'ont pas eu trop l'occasion de croiser.
Alors peut-être qu'on travaille moins sur l'histoire du socialisme et sur l'histoire, du mouvement ouvrier. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est vrai que voilà, sur ces problématiques-là, on peut pas l'éviter. Madeleine Rebérioux, quand même.
Ah, ça, c'est sûr. Elle a marqué aussi bien pour le socialisme. Également parfois d'autres domaines. Alors, je pense à l'histoire culturelle, l'histoire de l'art, sur son article sur 1913, sur ce qui se passe, les Absolument. Grands changements d'avant la guerre restent encore très très marquants sur culture et militantisme. C'est, à mon avis, de manière très parallèle à Michel Perrault, hein, c'est quelqu'un qui a débroussaillé, qui est issu elle aussi effectivement de
pour une élève de la brousse, débroussaillé, c'est pas mal.
Et j'étais très en accord avec ce que disait André Burguière. Je crois que la brousse était je l'ai connu moi dans les années 80, hein. C'était un maître très bienveillant. Il était déjà évidemment à la retraite, mais je l'ai souvent entendu comme jeune et modeste secrétaire des études jaurésiennes parler de ses élèves, justement, Agulon, Madeleine, et Corbin, etc. et tous les autres. Bon. C'était quelqu'un qui avait le sens effectivement de l'émancipation. Hein. Tout à l'heure, on a dit que effectivement les universitaires s'émancipaient. Si on dit trahir, je dirais, il faut le dire dans le bon sens du terme. Oui. Madeleine le disait souvent. Je me souviens à Christophe, Vincent, Marion, moi,
Vincent Duclerc, Marion Fontaine.
Un de ces jours, allez, vous me trahirez. Elle le disait en s'amusant. Ça, elle nous invitait quelque part à la trahir et en tout cas à discuter et à ne pas hésiter à être différent d'elle, à se confronter. Ça, elle aimait beaucoup justement le débat. D'où quelques débats, effectivement, parfois avec Michel Perrault.
Voilà. Et donc, cette rencontre avec Michel Perrault, elle se fait justement au sein de la fameuse revue Le Mouvement Social, où elles vont travailler ensemble. Et on les appelle comment, Gilles Candard, Michel Perrault, parle... Madeleine Rébériou et
on parle parfois des filles, des filles du docteur Marx, hein, qui étaient quatre ou cinq, selon qu'on ajoute aussi Colette Chambellan, qui était bibliothécaire du musée social, qui a joué un très grand rôle. Et les autres historiennes, oui, c'est Roland Trempé et Annick Riegel, qui effectivement participaient à l'aventure et qui ont marqué quand même l'histoire biographie de ce moment-là, des années 60 et 70, et qui étaient de très grandes professeurs. Et des femmes, je dirais, bon, sans doute, parce qu'effectivement, c'est les premières femmes, disons, qui accèdent à des postes dans l'université et qui ont dû certainement, avec des méthodes différentes, parce que le caractère de Madeleine n'était pas du tout celui de Michel Perrault. Hein,
ni de celui de... ni celui de Roland Trempé, d'ailleurs.
Ni celui de Roland Trempé. Chacun avait son caractère, et je crois que chacun a su... effectivement dire et faire ce qu'elle avait envie de dire ou de faire avec ses méthodes.
Parce que c'est une enseignante aussi, Madeleine Rébériou, comme Michel Perrault. Alors, une enseignante du secondaire, hein, d'abord, pendant assez longtemps, en fait, avant justement d'atteindre l'université.
Très longtemps. C'est la Brousse qui l'a fait venir à la Sorbonne dans les années 60, mais elle a
20
enseigné...
20 ans à Mulhouse, je crois, elle a enseigné.
Elle a enseigné d'abord à Mulhouse, puis beaucoup à Saint-Maur, au lycée Marcelin Berthelot, un peu à Montgeron aussi. Parce qu'elle était, là aussi il y a le passage par le Parti communiste, mais Madeleine Rébériou insistait bien sur le fait qu'elle était au Parti communiste, mais qu'elle ne faisait pas partie, disons, de ces militants qui arrivent à faire une belle carrière universitaire tout en étant au Parti communiste. Elle avait toujours un petit côté un peu décalé aussi, quoi. Donc elle est restée. Elle n'a pas pu devenir professeure de Cannes comme elle le souhaitait. Il faut dire qu'elle a eu un blâme pour avoir traité le ministre de l'Intérieur d'assassin au moment des grèves de 48, ce qui ne se fait pas.
Et oui, et ce qui, d'ailleurs, pour avoir ensuite milité pendant très longtemps dans le milieu de la défense des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, pour avoir également été initiatrice d'un mouvement pendant la guerre d'Algérie aussi, qui ont été toujours des prises de position sociale et politique dans la société de son temps, et ça c'est très important, il faut le dire, Gilles Candard.
Son anticolonialisme, je crois que c'est le mot qu'il faut prononcer. Le combat anticolonialiste qui parfois effectivement la met un peu en rupture avec même une part, disons, de la gauche universitaire et même parfois de ses amis communistes socialistes.
André Burguère, vous voulez intervenir?
Je voulais dire exactement ça, parce que ça a été quelque chose de très important pour elle, et quand on regarde maintenant rétrospectivement la gauche de l'après-guerre, l'Odyssée avec ou à côté du Parti communiste, ce qui a le mieux survécu, c'est l'anticolonialisme, qui n'a jamais été mis en cause, qui a été un élément très important, et chez elle, c'était fondamental.
Il y a donc cet anticolonialisme, et puis il y a cet amour aussi de la République quand elle est parfaite, ou quand elle, disons, elle tente à l'être, et qu'elle n'est pas justement cette République coloniale qu'elle a souvent connue. On va écouter sa voix de Madeleine Rébériou. Nous étions en 2001, et vous avez choisi une archive, Séverine Yatar, qu'on va écouter tout de suite.
En ce qui concerne l'ampleur de la torture, je crois que le travail des historiens est pratiquement achevé, hein, absolument énorme. La thèse de cette jeune femme, Raphaël Branche, qui a soutenu sa thèse sur la torture pendant la guerre d'Algérie, va paraître dans un mois chez Gallimard. Elle a eu accès à toutes les archives militaires, à un très grand nombre de témoignages, complétés par les témoignages qui surgissent en ce moment. On a la possibilité de dire que le travail des historiens sur les faits est très avancé. Ce qui n'est pas du tout terminé, ce qui est à peine commencé, c'est la mise en relation avec cette pratique générale et systématique de la torture et la colonisation. Et ce qu'on appelle, en termes d'histoire, ça s'appelle contextualiser, c'est-à-dire définir, analyser le contexte dans lequel la torture a pu prendre cette ampleur.
Pourquoi la condamnation par les politiques est importante à vos yeux?
C'est eux qui parlent au nom de la France, c'est eux qui parlent au nom de la République. En République, c'est la politique qui doit avoir le dernier mot. Nous ne cherchons pas de condamnation devant les tribunaux, ni rien de tout ça. Mais il faut que la vérité soit établie. Et elle ne peut l'être, en régime républicain, que par les autorités de la République.
Séverine Yatar.
Oui, donc c'est une archive de janvier 2001, en fait, qui faisait suite aussi à une mobilisation des historiens, un appel qui avait été publié dans le journal L'Humanité pour condamner justement les actes de torture pendant la guerre d'Algérie, suite aussi au témoignage de Louisette Hilariz à l'époque, qui avait expliqué qu'elle a été sauvée de la torture par un inconnu. Et là, on voit bien Madeleine Rébériou, à la fois se positionner en tant qu'historienne et en tant qu'intellectuelle engagée, parce que, ça aussi, c'est une de ses problématiques, Madeleine Rébériou.
Citoyenne. Hein, citoyenne. C'est le mot qu'utilise Michel Perrault dans la postface, et je crois que ça, c'était très vrai, quoi.
Et là, on entend donc la manière aussi dont elle rabroue un petit peu le journaliste qui ne...
Alors oui, le style, oui,
le style de Madame Berliou
est différent de celui de Michel Perrault.
Oui, voilà, parce que tout de même, pour tous ceux qui ont connu Madame Berliou, j'ai eu cette chance, c'était quand même quelqu'un, disons, d'une certaine droiture et parfois d'une certaine sévérité qui faisait que quand on était en face d'elle, on était plutôt dans ses petits souliers, tout de même, il faut le dire, Gilles Kandat, non? Ah, vous qui avez été son élève.
Oui, c'était un débat, je me suis fait très souvent garlander, bien entendu. C'était un débat rugueux et fraternel.
Oui, oui avec aussi cette dimension, elle portait, et ça c'était très proche d'une autre des historiennes de cette génération, c'était Rolande Trempé, une admiration sans nom, mais absolument sans nom, quand elle venait me voir en me disant « Mais Emmanuel, vous n'avez pas encore assez parlé de Jean Jaurès. » J'avais fait peut-être 2 émissions dans les 6 mois qui précédaient, mais il fallait reparler de Jean Jaurès. C'était aussi, c'était sa particularité. Bon, les cahiers d'études jaurésiennes, le travail qu'elle a mené autour de Jaurès, etc.
Oui, mais alors surtout pas un Jaurès qu'il fallait vénérer, qu'il fallait statuifier. C'était pas le Jaurès, disons, des commémorations. Ce qui l'intéressait, effectivement, c'était de prendre Jaurès à bras le corps et de l'interroger sur un certain nombre de dossiers. Alors l'anticolonialisme, on vient d'en parler, mais aussi pour la République, la démocratie, la classe ouvrière, même la question féminine. Elle n'était pas du tout pour dire revenons à Jaurès, ça va tout régler, ça absolument pas. Et elle a su, à mon avis, effectivement, transformer Jaurès en un acteur vivant.
En homme d'action, l'acte et la parole. Enfin, c'est toujours, d'ailleurs, c'était le sous-titre de son Jaurès publié chez Gallimard.
Découverte Gallimard, un remarquable petit découverte Gallimard, j'espère qu'on trouve toujours sur Jaurès. Hein, les gens qui veulent lire rapidement, disons, la substantifique moelle de ce qu'on peut trouver chez Jaurès, ont intérêt à utiliser ce petit volume avant de se lancer dans les œuvres de Jaurès que nous faisons sous son égide en 17 volumes chez Fayard depuis l'an 2000.
Gilles Kandat, pour quelqu'un qui, j'insiste encore là-dessus, ne connaîtrait pas de très près l'œuvre de Madeleine Reberiou et donc qui pourrait se plonger dans ses écrits que vous avez publiés avec Vincent Duclerc et Marion Fontaine avec une postface de Michel Perrault chez Belin. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, dire à quelqu'un pour qu'il se plonge immédiatement dans ce travail, dans ses œuvres d'actuel dans le travail de Madeleine Reberiou, c'est-à-dire on reprend très régulièrement Marc Bloch, on reprend très régulièrement Norbert Elias, on reprend très régulièrement des grands penseurs des sciences sociales des années 1930 à 1950. Qu'est-ce qui pousse à aller voir chez Madeleine Reberiou aujourd'hui, dans le contexte actuel, le travail sur l'anticolonialisme évidemment, et d'autres questions comme celle-ci?
Oui, peut-être parce que c'est ce qui manquait le plus dans les publications, les grands articles d'histoire culturelle, mais toujours justement à la connexion, à l'intersectionnalité avec le politique. Moi, je pense par exemple à l'article qu'elle avait donné sur les lieux de l'histoire dans la rubrique contre-mémoire, enfin, qui était justement un petit peu à part dans les lieux de l'histoire sur le mur des fédérés. Comment la commune devient quelque chose d'important, non pas forcément pour ce qu'elle a été, mais pour ce qu'elle devient dans l'imaginaire ouvrier à la fin du 19e siècle, comment se construit le mythe de la commune qui devient une force agissante. Par exemple, c'est un article qui est paru dans la lieu de mémoire. Et
vous avez dit les lieux de l'histoire, c'est intéressant d'ailleurs que vous ayez dit les lieux de l'histoire au lieu des lieux de mémoire, en l'occurrence, Gilles Kandat, oui.
Oui. Et je crois que ça peut être un très bon début. Hein. Alors effectivement, on a rappelé le nom des grands historiens des Annales. Le premier travail de Madeleine Reberiou, c'était sur Proudhon, oui. Ce qui prouve qu'elle a elle aussi exploré des chemins très divers. Et ce qu'elle ne savait pas d'ailleurs, c'est qu'il avait été l'objet d'un compte-rendu très élogieux de Lucien Febvre dans les Annales au moment de sa parution. Donc on voit que dans ces différentes générations d'historiens qu'on évoquait tout à l'heure, il y a une transmission qui se fait,
Un passage du témoin. Et une matrice commune, Séverine Yatin.
Et puis alors par contre, sa relation avec Michel Perrault, elle est ce qu'elle est, au mouvement social, etc. Mais sur la question des femmes, enfin, féministe, Madeleine Reberiou, pas vraiment. Si.
Ça se discute.
Ça se discute.
Nous avons parfois employé le terme. Je crois que elle elle était, je pense qu'elle pensait qu'elle était assez militante, qu'elle faisait assez, disons, pour un certain nombre de droits concrets des femmes, pour ne pas avoir envie finalement de s'engager dans le combat spécifique du féminisme. Je crois que c'est comme ça qu'elle prenait les choses.
Et puis, elle voyait les choses comme ça, ouais, c'est ça.
Oui, puis à partir du moment où elle l'avait pris les choses comme ça, ça l'amusait aussi, hein, il faut bien le dire, d'être un petit peu justement différente d'un certain nombre de ses consoeurs et d'affirmer son originalité.
Oui, et d'ailleurs, Michel Perrault, dans le texte qui conclut ce volume des écrits, dit « Assurément, rien n'était étranger à cette femme multiple et passionnée », en parlant de Madeleine Anvérioux, « Assurément pas les femmes, même si elles ne furent pas sa préoccupation première, elle était réservée sur le féminisme et plus encore sur les questions du genre, tant elle entendait demeurer fidèle à l'universalité des droits de l'homme, à la Ligue, qu'elle présida avec l'intensité que l'on sait et ailleurs, partout dans le monde. Pour elle, les femmes étaient dans le monde et elle redoutait de les isoler. C'est elle qui nous manque à présent. Christine Barr.
Première femme présidente de la Ligue des droits de l'homme, quand et refusant l'évolution du titre. Donc oui, elle n'est pas dans le dictionnaire des féministes, contrairement à Michel Perrault. Mais elle n'était pas du tout indifférente, elle avait juste une vision plus, disons, plus classique de la question des femmes, comme une question qui est là, mais qui est secondaire, qui ne justifie pas la création d'un espace particulier dans le champ universitaire, dans le champ de l'histoire ou dans les luttes sociales, le féminisme autonome. Voilà, elle ne le regardait pas d'un très bon œil. Elle ne le connaissait sans doute pas très bien. Mais elle a joué un rôle dans le développement de l'histoire des femmes en France. Dans les années 80, on a un petit peu oublié, quand la gauche au pouvoir veut avoir des actions mémorielles, organise soutien des colloques. C'est Madeleine Rébériou qui est invitée à ce moment-là.
Elle avait de très bonnes relations avec les féministes de la CGT, avec les militants de la revue Antoinette. Disons que dans l'action, on aimait bien cela, mais oui, elle se méfiait un petit peu des possibilités d'évolution doctrinale.
Oui, au Parti Socialiste, elle intervient, hein, Christine Barr, assez régulièrement sur ces questions. Hein, en tous les cas, c'est elle qui est invitée souvent, Madeleine Rébériou. En tous les cas, puisqu'on parlait des filles du docteur Marx, eh ben, il y a un colloque, voilà, sur Rolande Trempé, donc qu'il un hommage, saluer. Voilà, qu'il faut saluer le 15 novembre, donc, bien sûr, à l'Université Toulouse. Jean Jaurès. Voilà, histoire plurielle et histoire sociale, hommage à Rolande Trempé. Et donc, voilà, Rémi Pêche, Nicolas Adel, Gilles Candard, bah oui, bien sûr, Sylvie Chaperon, qui est à Toulouse, Alain Bauscus, Jean Foury. Un débat et extrait de film aussi.
Tout à fait. Moi, je parlerai de Jaurès et du droit de vote des femmes. Un beau sujet.
Voilà. Merci, Gilles Candard. Donc, et on suivra évidemment ce colloque avec intérêt, tant la personnalité, comme d'ailleurs celle de Madeleine Rébériou et celle très vivante aujourd'hui de Michel Perrault, de Rolande Trempé, nous a nourris personnellement depuis plus de 20 ans que nous nous intéressons aux émissions d'histoire à France Culture. Merci encore à tous. Et on va terminer en parlant d'une autre historienne qu'on aime bien. Ouais, décidément, c'est une spéciale fabrique de l'histoire, Arlette Farge.
Bah, Arlette Farge. Arlette Farge, bien sûr, qui a travaillé sur les femmes et qui travaille sur les marges, puisque Arlette Farge, ben, c'est cette historienne qui va chercher dans les archives que personne souvent n'avait regardé, ben, des histoires sur justement les marginaux,
des bracelets,
les pauvres,
des bracelets d'enfants,
les enfants abandonnés. Les conflits entre voisins, et puis tout dernièrement, ce journal qu'elle a retrouvé
de Madame Mongeant.
De Madame Mongeant. Monsieur Mongeant écrit, voilà, ce journal sur sa femme qui fait plein de choses qu'il ne faut pas faire
au
à ce moment-là, au
XVIIIe
siècle.
Un extrait du documentaire qu'on entendra demain, que vous avez réalisé avec Séverine Cassard.
Ils restèrent chez moi jusqu'à 7 heures, et comme ils allaient s'en aller, ma femme me dit de les prier à souper. Je ne le voulus pas. Le lendemain, le dit Richer vint à midi, midi et demi, au sortir de son bureau, faire une visite à ma femme. Et il resta jusqu'à près de 2 heures. Elle l'engage à dîner, ce qu'il accepte d'abord. Je rentre à 2 heures. Je ne suis jamais plus étonnée de trouver le dit Richer à la maison. Et ma femme qui me dit « Ne vous laissez en aller, je l'ai engagé à dîner. » Je ne réponds rien, on se met à table. Ma femme l'engage à venir promener Palais Royal. Il reste jusqu'à 7 heures qu'il retourne à son bureau. Et le soir, ils vont aller promener au Palais Royal. Le lendemain, vint souper et au Palais Royal. Le surlendemain, dîner souper et au Palais Royal. Il était tantôt à dîner, tantôt à souper et se promenait tous les soirs, amenant même son frère. Cela plaisait à ma femme, il ne se lassait pas de venir boire et manger à la maison.
ce journal, quand je l'ai trouvé, je l'ai lu en entier, j'ai d'abord hésité, je me suis dit, est-ce que je le publie, parce qu'il y a un nombre de détails extraordinairement intéressants sur lui, sur la façon dont il s'occupe aussi de son enfant, sur sa famille, les parents, etc. Mais j'ai décidé non pas de le publier parce que ça me semblait très difficile à lire et très difficile, il n'y a pas de syntaxe, c'est pas quelqu'un qui écrit très bien et je pense que les gens se seraient ennuyés à le lire. Et donc j'ai préféré travailler pour le mettre en contexte avec cette fin du siècle, enfin 1775 d'ailleurs, il se passe beaucoup de choses. On est en pleine émeute pour la fin, hein, en 1775. De cela, il n'est absolument pas question.
C'est un huis clos.
C'est complètement un huis clos. C'est cet homme qui va tout le temps ressasser ce qui lui arrive, courir après sa femme constamment. Enfin, d'ailleurs, ça trouble son travail parce qu'il faut aller la chercher sur les bords de la Seine. Elle adore aller là. Elle adore monter dans les batelets. Elle a dans les petits bateaux de passeurs. Elle adore prendre les bras des gens. Elle se trompe. Elle prend le bras d'un danseur d'opéra en croyant que c'est très bien. Or, les danseurs d'opéra sont des gens qui sont excommuniés, qui n'ont même pas le droit à être enterrés. Donc, elle fait tout le temps des erreurs. Mais elle se dit, si le danseur de l'opéra, c'est drôlement bien d'être à son bras.
Voilà un extrait du documentaire que vous avez conçu et qui a été réalisé par Séverine Cassard, Séverine Attard. Donc demain, Arlette Farge dans ses archives. On se promènera dans le fond d'archives qui lui a servi à faire son travail.
Le fond du Châtelet en particulier.
Le fond
en fait,
du Châtelet, hein. Effectivement. Et donc tous les fonds de police en particulier qui lui ont permis de faire son travail d'historienne du XVIIIe siècle. Merci en tous les cas à tous les trois. C'était une émission joyeuse à propos de personnalités qui nous ont toutes influencées d'une manière ou d'une autre. Merci Christine Barr. Et merci à vous André Burguer, vous êtes venu pour parler du numéro de critique consacré à Michel Perrault et titré L'Histoire ouverte. Et merci à vous Gilles Candard, avec Vincent Duclair et Marion Fontaine, vous avez donc édité des écrits pour que vive l'histoire de Madeleine Robériot. C'est aux éditions Belin. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige, et à la réalisation, Séverine Cassard.